ça ne plus aujourd'hui, les médias sociaux, le militantisme, le nombre d'organisations qui se mobilisent pour s'opposer à une question est beaucoup plus élevé qu'auparavant. Comment les gens organisent, perçoivent, comment ils interagissent avec des organisations ou avec le gouvernement, c'est totalement différent de ce que nous vivions avant. C'est la nouvelle réalité. Ça ne va pas revenir comme avant d'avoir un seul représentant d'un groupe militant, un du gouvernement, un de l'industrie, et qui se réunissent pour régler un problème. Ce n'est plus le contexte actuel. Lorsque vous voulez régler un problème, le train a déjà quitté la gare. Le groupe est déjà organisé et s'oppose et ils ont leur propre campagne. Un projet typique est toujours complexe. Mais je peux parler de déchets nucléaires, de fermeture d'écoles, de budget municipal, de désastre national. Peu importe la question ou l'enjeu, pour moi, c'est toujours la même constante, c'est incertain. Et il n'y a pas une seule façon d'aller de l'avant, parce qu'il y a la diversité des perspectives et des vues des personnes. Vous pouvez prendre une situation donnée où vous avez, ici, vous avez la même, vous êtes tous ensemble dans la salle, mais votre perception, votre expérience est très différente. Et vous regardez la société dans son ensemble. Chaque personne apporte ses valeurs, son expérience propre. Et la façon dont ils choisissent de réagir est très différente de celle de leurs voisins ou de quelqu'un dans leur famille ou de quelqu'un avec qui ils travaillent. Donc, il y a des éléments de base, des éléments qui doivent être là pour qu'on puisse aller dans un certains contextes. On peut parler d'engagement public ou on peut parler de l'engagement des intervenants, mais quelqu'un doit me dire quel est un minimum pour une bonne conversation. À quoi cela ressemble? L'écoute, être à l'écoute. Quoi d'autre? Le respect. Autre chose? Une conversation franche, de pouvoir vraiment prôner vos idées, mais aussi de laisser les autres donner leurs opinions. Donc, il y a des éléments de base lorsqu'on va avoir une conversation significative. Ce n'est pas entre vous et un individu. Ça inclut plusieurs perspectives, l'inclusivité. Il ne s'agit pas d'une question de représentation. Ce n'est pas vous qui parlez en nom parce que vous représentez les rouquins qui ont 45 ans et qui vivent dans un quartier d'Ottawa, Westboro. Ça inclut les autres rouquins qui vivent dans mon quartier ou d'autres rouquins ou rouquines qui vivent dans le monde. Alors, on veut créer un espace ouvert pour amener toutes ces perspectives et ça favorise la compréhension. Alors, vous avez peut-être une idée bien précise ou une réponse au problème, mais vous devriez partir avec une meilleure compréhension et davantage de possibilités que lorsque vous êtes arrivé. Et à l'essentiel, une bonne conversation sur une question complexe tient compte de tous les participants. On ne marginalise pas, on ne contrôle pas, on ne se débarrasse pas de l'aspect émotif. On en tient compte parce que nous sommes tous humains, nous avons des réactions, il y a des choses qui nous tiennent à cœur et on doit avoir une conversation constructive plutôt que de louper le train. Il y a des principes et des normes internationales qui devraient être importantes pour votre conversation. Il y a un document Core Principles for Public Engagement qui a été livré la première mois après l'élection d'Obama. Il y a des valeurs fondamentales de l'IAP et ça vous donne des exigences minimales de ce qui devrait être présent dans votre question complexe. ces normes, ces principes dont je parle sont au cœur de la balance. Et c'est, si on parle aux gens, si on essaye de les persuader ou de les convaincre des avantages ou des valeurs d'une façon de procéder, si vous leur dites plutôt que de leur demander, ils vont percevoir cela comme la manipulation. Si vous êtes à l'autre côté du spectre, si vous avez pris une décision ou si vous avez des options sur lesquelles vous consultez, vous allez probablement avoir une réaction intense, émotive. Combien de personnes ici vivent à Ottawa? Bon, j'espère que personne ne travaille pour la municipalité. Alors, la ville ici a toute une aptitude à travailler, de prendre une décision sur un enjeu, puis de consulter le public. Il y a 6 mois, ils ont donné des options pour le train léger. Il y avait 30 variations sur 5 itinéraires. Ensuite, ils ont livré des brochures dans les maisons pour indiquer « oui, on veut vous donner toutes ces idées, mais nous avons une façon préférée ». Et notre brochure ne parle que de cette façon-là. Ils ont eu toute une réaction. Ils essayent de persuader ou de convaincre les participants. Ils ont déjà pris la décision. Ils disent que c'est de la consultation. Ces deux choses ne vous aident pas à réunir les gens, ne vous aident pas à régler les problèmes et à tenir compte des autres autour de vous. L'inclusivité, la compréhension, ça, c'est l'espace en plein milieu du spectre. Donc, il y a beaucoup d'attentes de la part de la société que les gens auront une voix dans les décisions qui leur importent. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent dans ce domaine ou ce secteur. Ça veut dire qu'il y a toute une demande et des attentes pour que les gens participent. Et la perception, la façon dont le gouvernement traite une question sera différente de la perception du rôle ou de la capacité à influencer l'enjeu. Alors, je veux vous demander de vous mettre debout. Levez-vous. Alors, vous êtes tous debout. Imaginez que vous n'êtes plus dans cette salle. Vous n'êtes plus ici dans votre rôle, le rôle qui vous a amené ici. Alors, ne pensez pas à votre travail, à votre lien avec l'industrie, à votre organisation. Mettez-vous dans votre communauté, sur votre rue, dans votre quartier, avec vos voisins, avec ceux qui vous importent, votre famille, votre église, votre groupe communautaire, les gens avec qui vous interagissez. Pensez à une question qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose qui est lié à l'école, au zonage, au recyclage, au parc de chiens. Ça, c'est toujours une grosse question. Alors, le train léger, c'est mon dada personnel. Pensez à une question, à cette question. Cette question vous importe, mais vous n'avez pas encore participé à la conversation entourant cette question. Lorsque je lis la raison pour laquelle vous n'avez pas participé, je veux que vous preniez un enjeu qui vous intéresse, mais vous n'avez pas encore participé. Et lorsque je vais lire pourquoi vous n'avez pas participé, asseyez-vous. J'imagine que l'organisation, le gouvernement va prendre la bonne décision. Il y a deux personnes se sont assises. Les autres sont encore debout. Incroyable, c'est choquant. Vous êtes trop occupés pour participer. Vous n'avez pas suffisamment d'informations. Il y avait juste une possibilité de participer ou ils ne vont pas vous écouter de toute manière. Ils ont déjà, la décision est déjà prise. Vous avez des responsabilités envers vos enfants ou vos parents. C'est le temps de la chasse. Et encore deux personnes debout. C'est quoi votre raison? Je m'excuse, inaudible. Donc, je vais déménager chez vous. Alors, si un enjeu m'importe, je participe. Bon, c'est... Nous disons fréquemment que les gens ne participent pas dans les enjeux qui les concernent ou parce qu'il y a de l'apathie. Moi, je crois que ça n'existe pas, l'apathie. C'est tout simplement des gens qui ne participent pas aux choses qui vous intéressent, vous. En fait, les gens s'intéressent à leur communauté, au bien-être animal, à l'environnement. Oui, les gens sont bien intéressés et c'est important pour eux. Mais il y a 10 autres raisons pourquoi ils ne font pas partie de la conversation. Il y a la confiance. Ça, c'est un grand morceau. Tout un motivateur, c'est à ne pas participer, c'est un manque de confiance. S'ils ne font pas confiance à votre organisation, à vous ou au gouvernement, ils vont se désengager, ils ne vont pas du tout participer à la conversation. Mais ils ont peut-être des idées bien importantes à contribuer. Et maintenant, le plus grand motivateur pour s'engager, c'est un manque de confiance. Parce qu'ils ne vous font pas confiance pour prendre les bonnes décisions. Et les groupes de militants se mobilisent autour de cela. Il y a plein de gens qui ne sont pas motivés par un manque de confiance, qui ont quand même une voix, une expérience, une perspective sur une question et dont les idées vont vous permettre de créer une solution durable. Vous avez besoin de ceux qui ne vous font pas confiance et des autres et pour vous permettre de créer quelque chose qui va progresser. Ceux qui protestaient ou qui n'aimaient pas les choses, n'étaient personne que vous connaissiez. C'est votre voisin, votre collègue, l'ami de votre enfant. Ce sont des personnes que vous connaissez qui protestent, qui démontrent, qui font des démonstrations plutôt. Et ça fait partie de l'expérience d'avoir voix au chapitre, d'apporter des changements, d'améliorer les organisations. Ce n'est pas pour vous opposer, ce n'est pas pour vous démoniser. Les gens sont motivés par des choses positives. Ils vont peut-être dire quelque chose qui va vous mettre sur la défense ou dire des choses qui vous caractérisent comme méchants. Mais en fait, leur intention, c'est de créer le changement. Lorsque je regarde la définition de conflit, le conflit, c'est un signal que quelque chose doit changer. Il ne s'agit pas de point de vue opposant. C'est un indicateur pour vous dire que peut-être vous devriez faire les choses différemment. Vous devriez peut-être changer votre façon de faire. Bon, parlons de regrouper les gens. Ed, ce matin, a dit que la science ne nous dit pas quoi faire. C'est la solution technique, les valeurs qui vous donnent un moyen d'avancer. Et peu importe la question ou l'enjeu, que ce soit oui ou non, ou nous sommes les bons, vous êtes les méchants, on ne peut pas avancer dans cette conversation. Si cette conversation s'oppose, vous faites les choses comme moi je veux ou non. Mais si vous pouvez aller plus loin et voir, les gens s'intéressent à la viabilité financière, à des animaux en santé et de survivre, ou la possibilité de prendre des décisions qui sont bien morales ou éthiques. Oui, on peut avoir des conversations qui sont significatives. J'ai utilisé le mot « embrace », de vraiment tenir compte de cette émotion. Pour marginaliser un processus où il y a de la polarisation, de la controverse ou de la conflit, ça va tout simplement vous retomber dans la face. Et lorsqu'on amène toutes les perspectives de façon ouverte, c'est la seule façon de créer une solution. Si vous essayez de marginaliser ou de contrôler, les gens vont résister. Si vous disiez à votre voisin ou à votre conjoint, et c'est là, lorsque mon mari me dicte quoi faire, moi, je vais vous dire non, c'est pas du tout cela. Mais si vous me demandez comment est-ce que j'aimerais participer et ce qui est important pour moi, la réaction est entièrement différente. La même chose est vraie pour les conversations qui sont complexes et émotives. Et fréquemment, on pense que si on connaît bien les attentes des intervenants ou du public, ils vont participer de la façon dont on veut. Si on leur dit « voici votre rôle et l'influence que vous pouvez avoir et comment vous allez participer à partir de maintenant », il n'aura pas de problème. Mais ça va aller bien si vos attentes sont les mêmes que les leurs. Mais si elles ne le sont pas, vous allez avoir... les gens vont rester assis dans leur position et ils vont encore être absolument certains que vous êtes le méchant et eux, ils sont le bon. Ils vont vous opposer. Et ceci revient à une question de pouvoir et de voix au chapitre. Dans mon expérience, j'ai appris que la représentation ne règle pas les problèmes complexes. On ne peut pas seulement parler à des groupes de militants et à l'industrie. On doit avoir une diversité de perspectives, mais on ne peut pas uniquement parler à des représentants. Plus le groupe est petit, plus il est difficile de régler le conflit ou de créer une décision durable. Dans mon travail, les situations qui sont réglées sont celles où on parle d'un enjeu complexe où des milliers de personnes participent plutôt que d'en avoir 12. Si on en a 12, la diversité des perspectives est limitée. L'idée qu'on doit faire la même chose, qu'il n'y a qu'une seule réponse, c'est plus facile à voir lorsqu'il y a 12 personnes autour de la table. Et on a une situation qui s'appelle « group think », la pensée en groupe. Et plutôt que de démoniser ceux qui ne sont pas là, plutôt que la capacité de pondérer toutes ces options et ces perceptions. Et au centre de cela, c'est la responsabilité réciproque. Il n'est pas suffisant pour qu'une personne qui est engagée, qui participe à une question complexe, de vous dire seulement ce qu'ils ne veulent pas. Et votre travail est de dire, bon, ça c'est très bien, si c'est ce que vous ne voulez pas, mais quelle est votre solution? Quelle est votre option? Ou comment est-ce que vous suggérez qu'on puisse aller de l'avant et pour tenir compte de vos idées et celles des autres? Nous avons fait un projet pour la ville d'Edmonton. Est-ce qu'il y a des gens d'Edmonton ici? Ils vont fermer l'aéroport bientôt. Mais la conversation est très, très polarisée. Garder l'aéroport ouvert, le fermer. Et les gens qui se réunissaient et qui se disent « Oui, on comprend toutes les raisons, mais on va vous poser la question. » Et alors, si ça se passe, et si votre décision n'est pas prise en compte, si vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez besoin? C'est la chanson des Rolling Stones. Si on essaye, on va peut-être trouver ce qu'on a besoin. Moi, je ne peux pas chanter, malheureusement, mais ça, c'est vraiment au cœur d'une conversation importante. Ça ne vaut rien de dire ce à quoi on est contre. C'est à vous de dire, oui, je comprends, vous êtes contre cela, mais vous êtes pour quoi? Et quelle est votre solution? Et comment est-ce qu'on peut obtenir ce que on a besoin de part et d'autre? C'est ce que crée une conversation importante. Et on revient à l'émotion, à l'émotivité. Et je vais ensuite vous parler du fait qu'on doit vraiment créer un espace pour que ça fasse partie de la conversation. Je ne veux pas dire qu'on met un micro et que tout le monde crie les uns contre les autres. On parle des choses qui importent aux gens, les raisons pourquoi ils ont peur, pourquoi ils sont anxieux. Et on parle de toutes ces questions qui nous importent. Notre amour pour nos animaux, notre nos animaux de compagnie, gestion de la douleur, etc., etc. Tout ça, c'est important. Robert a parlé d'une conversation franche. Oui, ça veut dire que on a l'émotion qui est associée avec ce qui importe aux gens. Donc, si je dis vivons l'émotion, et je ne parle pas uniquement de la colère, bien qu'on a la peur, l'anxiété, les craintes, la frustration, qu'est-ce qui déclenche cette réaction émotive très intense, peu importe l'enjeu? Il y a des recherches qui démontrent quels sont les facteurs déclencheurs. La peur. Quelqu'un d'autre. Une expérience antérieure. Votre vue de la, ou votre perception de la question, de l'enjeu. Inaudible. Alors, on a l'impression qu'on choisit pour vous. Est-ce que vous avez autre chose en tête? Bon, voici ce que la recherche démontre. On a des facteurs d'un côté de la colonne qui va réduire la réaction émotive. D'autre part, l'autre colonne, si les gens estiment que c'est les autres qui contrôlent, si c'est industriel plutôt que naturel, si c'est exotique ou en dehors de votre expérience ou de vos possibilités, si vous vous souvenez de la journée où ça s'est passé dans votre famille, dans votre industrie, et vous allez vous en souvenir pendant des années, ça va causer une réaction émotive intense. Si c'est catastrophique, si ça peut avoir des impacts sur les générations à venir, si c'est quelque chose de non prévu, vous n'auriez pas pu imaginer que votre avenir serait comme ça. Le contrôle des autres, injuste, qui bénéficie, et si ce n'est pas vous qui bénéficie, eh bien sûr que vous serez en colère. Vous pouvez rire d'autres sources. Eh bien, très peu reviennent à la question de substance. On ne parle pas de douleur. Il s'agit de déclencheurs émotifs qui n'ont rien à faire avec la question essentielle. Moi, je peux changer bien-être animal, parler de fermeture d'école, parce qu'il y a des facteurs communs dans tout cela où on déclenche une réaction émotive. Ça, c'est le contexte de la conversation. Il y a certains de ces facteurs qui sont des facteurs de peur, de crainte, qui vont créer un effet multiplicateur en dehors des personnes dont il est question. Ces questions vont attirer l'attention des médias. Il y a des gens de l'extérieur qui, selon vous, ne penseraient jamais à ces enjeux. Des gens, donc, qui auront des répercussions sur le futur, contrôlés par d'autres, injustes, dont on ne peut pas se fier. Si vous avez ces facteurs de peur dans votre processus, vous pouvez bien garantir que tout le public sera en réaction à votre question. Et ainsi, vont contribuer à la polarisation et contribuer à rester sur ses gardes.
Et là, on revient aux faits. Normalement, ce n'est pas lié à une question substantive. On pense que si on aide les gens simplement à comprendre, les émotions seront abandonnées. S'ils comprenaient un peu mieux, et ça les dérangerait plus. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas. On dirait que c'est une réaction normale d'expliquer si je peux répondre aux questions. Vous n'allez plus être dérangé, vous allez être d'accord avec moi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand la partie des émotions est déclenchée, les émotions sont plus fortes et on n'est pas capable de d'analyser les faits. On ne peut pas les comprendre et on ne peut pas travailler de façon logique avec les renseignements techniques qu'on vous donne. Et dans la plupart des situations, ce qu'on fait, c'est de donner encore plus de données. Et plus les gens ont une réaction émotive, on le donne, plus on donne des données. Alors, ils ont des données différentes. Et là, on va leur donner nos données et ils vont comprendre. Mais ça ne fonctionne pas. On doit accepter l'émotion si vous parlez de pourquoi les gens sont dérangés et ce qui est important pour eux. Ils vont se calmer suffisamment pour parler des questions substantives. Mais normalement, on se concentre sur les données. La science ne dit pas quoi faire, mais on semble penser que les données vont nous permettre de savoir quoi faire. Je ne veux pas dire que les données ne soient pas pertinentes, elles sont importantes, mais quand les gens sont dérangés, ce qui est important doit être analysé en d'abord. Si vous pouvez montrer que vous êtes... vous avez une ouverture, un certain engagement. Si vous vous présentez avec les meilleures possibilités, vous pouvez aider à arriver à un changement positif. Avant, vous avez vu la diapositive avec les trois éléments de la confiance. C'est la capacité, vous êtes compétent, vous connaissez la question, vous êtes prêt à garder vos engagements, vos promesses, mais vous devez aussi être capable de remonter sur le plan des émotions, que les personnes soient d'accord ou non. Alors, le respect dont nous avons parlé, qui vous permet de dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais comment est-ce qu'on peut avancer tout en respectant les deux points de vue différents? Il n'y a pas une seule façon. Je voudrais vous donner une baguette magique avec la solution et la réponse. Mais j'ai dit que la seule chose qu'on voit toujours, c'est l'incertitude. Elle est toujours là. Quelquefois, c'est écœurant et d'autres fois, on s'amuse. Il y a des choses qui dépendent complètement de votre contexte. J'ai appris ça avec des participants et des groupes de militants. D'abord, il faut accueillir les gens, pas seulement les écouter. Il faut les accueillir dans la conversation. La seule façon d'aller de l'avant avec une décision, c'est si les gens sont assis avec vous au lieu de lancer des pierres. Souvent, je participe à des réunions où on crée les piquets et tout le reste avant que j'arrive, mais les gens devraient entrer dans la conversation. Ils peuvent arriver, ils peuvent garder la partie écrite et laisser les bâtons à l'extérieur. Et on peut arriver avec les pétitions et les tracts, mais il faut s'écouter. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais peut-être que si on se comprend mieux, on va trouver une façon d'aller de l'avant. Il faut être courageux. Il ne faut pas prendre des choses très méchantes. On vous caractérise comme méchant. Il faut prendre du recul pour pouvoir dire pourquoi vous dites ça. Il s'agit de ne pas éviter ces conversations difficiles. Il faut que les gens participent directement à la conversation avec vous. Le processus doit être inclusif. On ne peut pas résoudre des situations complexes en excluant les gens. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'un comité de 2500 personnes, mais on doit demander aux gens de vous aider à résoudre le problème. Bon. On peut dire que je comprends que vous soyez opposé, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour aussi répondre à mes propres besoins? Et ça le permet de contribuer au résultat. Il s'agit d'une responsabilité envers le discours civil. C'est bien qu'ils ne soient pas d'accord, mais ce n'est pas correct qu'ils disent que vous êtes méchant. Alors, vous pouvez parler de ce que eux aussi, ils peuvent faire quelque chose pour obtenir une partie de ce qu'ils veulent. Maintenant, une leçon apprise dans plusieurs groupes militants, s'ils s'amusent plus que vous, vous êtes. Ça ne marche pas. Souvent, les groupes sont en train de prendre l'autobus, ils sont en train de préparer des écriteaux, ils chantent. C'est amusant de faire partie de ces groupes. Et quelquefois, vous. Finalement, c'est amusant d'aller au potluck chaque semaine. Alors, vous continuez à y participer. C'est le processus. C'est beaucoup plus intéressant que le vôtre. Il faut changer votre processus. Et on n'est pas obligé de se faire mal. Résoudre des problèmes avec les gens, c'est une occasion de comprendre un peu mieux, une occasion de parler franchement et parler de ce qui est important. C'est lié aux questions techniques de votre industrie et des valeurs sociales. C'est une occasion et c'est un don. Et il devrait y avoir quelque chose d'agréable. Ça ne devrait pas être de la souffrance seulement. Les gens ne vont pas assister si un meilleur potluck à un autre endroit où on est en train de préparer les piquets. Alors, il faut inviter ces gens à parler avec vous. Un apprentissage très important pour moi était dans un projet sur la commission de vérité. C'était un peu comme le cas c'était avec les Inuits dans le Nord, mais c'était pas seulement les internants ont tué les chiens, il y avait les relocations, etc. Moi, j'aurais pensé que ces conversations avec ces gens qui avaient subi les retombées tellement négatives depuis des centaines d'années, et c'était des gens qui avaient du mal à voir qu'il pouvait y avoir un avenir différent. Mais un groupe d'aînés a dit que si on veut faire partie de la société, aller de l'avant et être Canadien, nous devrons sentir de la compassion. On doit pardonner et on doit contribuer aux résultats à l'avenir. Et je pense que c'est vrai dans tous les cas d'engagement positif. Il faut avoir un espace où les gens peuvent se demander comment travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'on va vous poser des questions. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Vous avez parlé du fait qu'il faut résoudre les problèmes avec les gens, mais comment, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne veulent pas résoudre le problème? Ça arrive fréquemment. Je commence par le processus. Au lieu de parler du problème lui-même, j'ai dit que si on va en parler, comment est-ce qu'on va s'orienter? Alors, vous avez un point de vue et vous voulez un résultat, il faut prendre du recul et se demander quelles sont les normes de conversation aussi. Si on peut obtenir le respect, on va convenir de ne pas être d'accord. On va se parler, mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur les résultats. Si on peut s'entendre sur le processus, on peut faire entrer les gens dans la salle pour parler. Mais on ne peut pas résoudre des problèmes complexes avec les amis Facebook. Il faut que les gens soient tous dans la même salle. Les gens doivent se regarder en pleine face. On a besoin quelquefois de quelqu'un qui est neutre, qui peut parler avec quelqu'un et comprendre les préoccupations les plus importantes et savoir qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'il soit d'accord pour processus. Ça va nous donner la bonne foi, mais il faut prendre du recul d'abord pour essayer de comprendre ce qui se passe avant de aller en profondeur. Vous pouvez m'envoyer un courriel et je vais vous donner quelques exemples si vous voulez aussi. Merci, la présentation était excellente. Une autre question dure. C'était une bonne question de la part de Ron aussi. Quand il y a un groupe de personnes qui représentent une diversité d'intérêts et elles arrivent à se comprendre mieux et qu'on vienne en partie sur la façon d'aller de l'avant, c'est une question. Mais on doit être responsable envers ceux qui n'ont pas eu la même expérience. Comment résoudre cela? On ne peut pas résoudre cette contradiction parce qu'aussitôt que ces individus présentent les solutions potentielles à ceux qui n'ont pas fait partie du processus, il y aura une réaction. Je ne veux pas dire que ce ne soit pas important que ces gens-là trouvent quelque chose, mais il faut parler en dehors de la salle. Ce sont les mêmes conversations pour toutes les personnes qui font partie du séjour. Disons qu'on a travaillé sur un projet pour les installations provinciales. Il y a un conflit depuis 90 ans avec la communauté autochtone. Et on pense que moi, j'ai une baguette magique pour transformer la situation. Il y a 15 ou 20 ans, on avait négocié une entente d'indemnisation avec une vingtaine de personnes de la communauté, mais 97% des personnes ont voté contre là parce que ces personnes-là n'avaient pas participé. Quand il y a un comité, il y a les gens qui se comprennent très bien, qui pèsent les pour et les contre, mais ce n'est pas tout le monde qui est là. Il y avait des mécanismes et des techniques qui permettraient au comité de faire le travail, mais ça va donner la parole à d'autres personnes. Sinon, il y a simplement une réaction. Au lieu de faire... Il y a l'impression qu'il y a une consultation. Les autres doivent aussi sentir qu'ils ont fait partie de ce séjour. On voulait construire l'oléoduc McKinsey. Je m'appelle Brian Walton. Je travaille avec Susan Kitchen. Ça, c'est une autre anecdote que je pourrais vous raconter. Je travaille avec le National et Alberta Cattle Feeders. Et j'étais biologue dans les années 70 et je faisais une évaluation dans la rivière Mackenzie. Ça allait être l'oléoduc le plus écologique imaginable, mais après des années, on n'a pas construit cet oléoduc et je pense qu'il sera peut-être jamais construit. Et si vous aviez été le chef du projet, qu'est-ce que vous auriez fait? Une petite question. J'aurais fait plusieurs choses de façon différente et je pourrais dire la même chose de Gateway ou n'importe quel autre oléoduc. Le processus est erroné. Au lieu de dire qu'on doit s'occuper des besoins énergétiques, la viabilité économique et les besoins environnementaux et les droits des Premières Nations. Comment est-ce qu'on peut faire ça avant de prévoir un tracé? On peut dire qu'on a parlé des besoins énergétiques, les droits des Autochtones et de la viabilité économique et c'est le contraire qui arrive. On pourrait probablement prendre beaucoup de vin et continuer à parler de cette question, mais le résumé, c'est qu'on ne doit pas commencer avec un tracé sur une carte. Ça donne l'impression qu'on est en train de réagir, alors les gens se défendent et on aurait peut-être avec une réponse écologique ou une on aurait peut-être le point de vue de ceux qui défendent l'oléoduc, mais on va pas parler de la foi, la confiance, ces choses-là. C'est ces choses-là qui donnent la polarisation. Gateway, Keystone sont des exemples. Je vais vous envoyer un blog que j'ai écrit sur cette question. À partir de la question de Jeff, parce que votre réponse, je la trouve très intéressante. Nous avons des représentants de plusieurs organismes dans nos codes, dans nos comités d'élaboration du code, et nous ne voulons pas qu'il y ait de peur à l'avance, mais en même temps, on reconnaît que chaque membre a des personnes avec qui il faut communiquer. Il y a eu des situations où vous avez eu raison. Le comité du code poisson avait dit qu'il y avait un consensus dans le comité, mais il fallait que le consensus aille plus loin. Il y avait un ancien processus. Une fois qu'on avait le consensus, on avait le code. La transparence provient en partie du comité des commentaires, le processus des commentaires. Alors, ce que je vous entends dire, c'est qu'il peut y avoir d'autres choses qu'on devrait faire. Et je voudrais savoir si vous pouvez combler un peu cette lacune entre le travail du comité du code et le processus de commentaires du grand public. C'est très bien que vous ayez un comité d'élaboration des codes pour parler de ces choses-là. C'est très bien. C'est important de présenter cette initiative au grand public et vous dites nos réflexions les plus profondes jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des façons d'avoir plus de responsabilités réciproques. Vous pouvez dire, voici notre réflexion. Il faut nous dire quels sont les pour et les contre, ou les défis et les opportunités de tout ce qu'on a vous présente. Et si on devait passer par là, quelles sont les choses qu'on devrait troquer, échanger? Si c'est votre option, qu'est-ce que vous pouvez abandonner pour répondre aux besoins des autres? Alors, il y a des choses très essentielles. Chaque membre du comité doit avoir les compétences et les outils pour parler de la même chose dans chaque organisation. Après, on peut parler de certaines choses et ce qui revient à la table de la réunion est bien éclairé. On peut dire que vous n'avez pas pensé à ceci. Nous sommes très préoccupés par une telle chose. Comment est-ce que vous pouvez l'incorporer? Il faut amplifier la conversation. On peut donner commentaires publics. On ne veut pas dire plus tard que non, il ne faut pas faire ceci ou cela. Utilisez pas de jurons. Non, mais donnez-nous des commentaires positifs. C'est ça qu'on veut, mais les gens pensent qu'il s'agit de chiffres. Alors, si on peut inonder le public de notre point de vue, les autres devront nous écouter. Alors, les communications ont indiqué que non, nous voulons de vrais commentaires. Il ne s'agit pas de savoir combien de personnes vont copier-coller les mêmes paroles pour l'envoyer. Ça, c'est une campagne et on le voit très souvent sous des conditions polarisées. Il y a des outils en ligne qui peuvent enlever ça pour vous permettre d'avoir une conversation importante. Mais il y a des façons de s'en occuper, mais c'est une des difficultés de cette conversation polarisée. Il y a une campagne et on peut dire, bon, très bien, mais comment ne conformer à vos besoins? Il faut agir comme un grand, quoi. Merci beaucoup. C'était très intéressant.